Le cœur de la montagne est un film que vous pourrez voir en salle au cours de l'hiver 2026-2027, un film documentaire animalier centré sur le Grand Tétras et la protection des vieilles forêts et de sa biodiversité, exclusivement tourné dans les Pyrénées par des Pyrénéens. Pour nous présenter ce film, je reçois les deux réalisateurs de celui-ci, Jérémy Caz et Patrice Abeille. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, tous les auditeurs, auditrices.
Alors, est-ce la première fois que vous réalisez un film comme celui-ci?
Oui, c'est la première fois qu'on réalise un film de cette ampleur, puisque là, l'objectif, c'est de faire un film qui passera au cinéma, donc avec des moyens qui sont pour nous conséquents, puisqu'on est en autoproduction. On vous parlera de l'équipe tout à l'heure, peut-être pour avancer, mais c'est vrai, oui, c'est la première fois.
Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé au Grand Tétras et à la protection des vieilles forêts et de leur biodiversité? Avec quel objectif?
Alors, nous, on est deux dans la réalisation du film, donc Jérémy et moi. Moi, je suis le cinéaste qui fait des images depuis pas mal d'années. En fait, je suis pyrénéen de base, hein, mes parents sont du coin, et je suis vite tombé amoureux de ces vieilles forêts, de ces espaces à forte naturalité. Et c'est vrai que le Grand Tétras cristallise un peu cette richesse écologique. C'est un oiseau en fait qui reste un emblème de tout ce que l'homme a renoncé à protéger tout ça. Il en reste pas beaucoup. Pourquoi? Parce que bon, ses habitats se sont dégradés au fil des années. Dans les Pyrénées, on a une sous-espèce un peu particulière. On a une sous-espèce qu'on appelle Aquitanicus, les scientifiques l'appellent ainsi, et c'est une espèce qui est endémique aux Pyrénées. À savoir que le Grand Tétras dans le monde, en général, il utilise un seul milieu, le milieu des forêts typiques ça s'appelle la taïga. Dans les Pyrénées, il va utiliser sept types de forêts. Et pourquoi? Parce que du fait de son évolution et au retrait des glaciers il y a 10 000 ans, il a trouvé là plusieurs niches écologiques qui aujourd'hui lui permettent de survivre et d'être dans une population qui quand même est stable. Voilà, il y a des endroits où ça se stabilise, des endroits où la population chute un peu, mais on a quand même cet animal encore autour de nous. Et l'objet du film, c'est aussi de parler de cet animal. Pourquoi? Parce que c'est juste une excuse, je pense, moi, de parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est l'essence, en fait, c'est protéger ces espaces qui sont réduits à 4 à 5% dans les Pyrénées. Il y en a plus beaucoup. Voilà.
Il se retrouve sur toute la chaîne des Pyrénées ou qu'un endroit bien précis de la chaîne?
Alors, oui, il est à peu près présent sur 350 km de linéaire de forêt. Moi, je ne vais pas vous faire à la radio un dessin, mais c'est vrai que le linéaire est assez important. Et d'ailleurs, en écologie, c'est ce qui fait qu'il survit encore. Ces connexions de bon habitat, si vous voulez, permet à l'oiseau d'être présent encore. À savoir que les Pyrénées, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès, donc sauvage. Voilà, donc
Il est encore tranquille de ce côté-là.
Ah, tranquille, je dirais pas ça.
Non?
Il est quand même sous le joug de certaines activités touristiques humaines. Voilà. Après, l'objet du film, c'est surtout ne pas mettre à défaut l'humain. Au contraire, nous, on a fait un film dans lequel on a intégré, oui, les animaux, mais aussi les humains.
C'était votre démarche principale dans ce film ou il y en a eu d'autres
Oui, enfin, la démarche
Ouais.
principale, c'est quand même un film animalier. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, Ouko, qu'on va suivre au cours de son évolution naturaliste. On va le suivre enfant, adolescent, puis jeune adulte. Et au cours de ce périple, de cette quête, sa quête, bien sûr, vous avez compris, ce sera de trouver ce grand tétras, de retrouver même ce grand tétras, puisqu'il aura eu l'occasion de l'observer lors d'un pique-nique à montagne, à l'aube de ses 7 ans. Et adolescent, il va parcourir ces forêts pyrénéennes à la recherche de cet oiseau. C'est tourné un peu comme une enquête et à travers son périple, il va rencontrer beaucoup d'espèces en fait. Le pic noir, par exemple, qui est un des indicateurs de bonne santé des forêts. L'ours, le gypaète barbu. Et bien d'autres espèces qui vont l'amener à découvrir. Mais je vous dis pas la fin.
Vous dites d'autres espèces. Lors du tournage, vous n'avez pas rencontré que le grand tétras?
Non, les images, ça fait longtemps qu'on tourne. Moi, ça fait des années hein, que je fais ça. Donc, vous allez avoir tout le cortège des oiseaux qui utilisent les loges, si vous voulez, au départ. Le pic noir, le pic épeiche, etc. Et en fait, sa quête, elle va l'amener à croiser, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, d'autres espèces comme le cerf par exemple. On a une scène incroyable de cerf avec Uko adulte, le gypaète barbu qui est un oiseau qui revient dans les Pyrénées. Il a à peu près une croissance de 10% par an, comme l'aigle royal. C'est un oiseau qui avait disparu dans les années 60 et 70. Il y a une légende qui courait sur cet oiseau, c'est pour ça aussi que nous on veut parler de ces oiseaux qui sont un peu en parallèle du film. Mais c'est un oiseau qui avait disparu, il y avait une légende qui courait dans les Pyrénées qui disait que c'était un voleur d'enfants. Alors que quand vous connaissez la biologie et l'écologie du gypaète barbu, c'est un oiseau qui mange même pas de chair humaine, il mange juste la substance de moelle qu'il y a dans les os. Voilà, c'est le dernier oiseau qui va utiliser une carcasse à montagne, c'est le gypaète barbu. Donc les enfants, restez, vous pouvez observer cet oiseau sans danger. C'est un oiseau extraordinaire, magnifique, c'est le plus grand vautour d'Europe.
Jérémy ?
Oui, moi j'aurais complété parce que effectivement, du coup, il y a les rencontres animales tout le long du film. Et l'idée, il l'a dit Patrice, c'est de ne pas dissocier les humains des animaux. Et donc tout au long de la quête de ce jeune Uko, il va aussi croiser des personnes qui vivent dans la montagne, qui vivent la montagne même. Donc voilà, il y aura un berger, il y aura un scientifique, notamment Emmanuel Menoni, qui, donc chaque personnage, c'est le terme scénaristique, mais en fait chaque personne joue son propre rôle dans notre film. Donc Emmanuel Menoni est Emmanuel Menoni, il est scientifique et c'est un biologiste mondialement reconnu et spécialiste du grand tétra. Donc il nous fait le plaisir de jouer. Et donc voilà, c'était aussi, comme il l'a dit Patrice, ne surtout pas dissocier l'humain de l'animal, puisque voilà, on vit tous finalement dans les montagnes, et les auditeurs, auditrices de Radio Présence sont peut-être dans les montagnes aussi, donc voilà, c'était important pour nous de pas dissocier ça, puisqu'on fait partie de ce monde-là tous ensemble.
Voilà, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur Bagnères de Luchon ou la Vallée d'Or et du Louron, comment s'est déroulé le tournage ? J'imagine en silence, c'était le mot d'ordre, hein, pas un bruit, avec peu de personnes sur le terrain.
Alors en fait, c'est des techniques un peu particulières dans le film. Jérémy en parlait, on va suivre l'évolution de ce jeune Uko. Bien sûr, à l'âge de ses 8 ans, il ne va pas faire de l'affût. Par contre, il va comprendre comment approcher le vivant. Il y a toujours une démarche selon l'espèce que vous approchez. Et quand il va devenir adolescent, on va le voir grandir. Son premier affût, ce sera le pic noir. Et il va observer pendant longtemps ce pic noir, essayer de comprendre comment il peut le respecter tout en l'admirant. C'est aussi un message qu'on veut lancer à travers ce film, hein, essayer de faire comprendre aux gens qu'on peut être admiratif du vivant, essayer de l'approcher, ne pas mettre la nature sous cloche, hein, comme on entend un peu aujourd'hui, un peu partout. Je pense que c'est contre-productif. Je pense qu'il faut donner un message d'espoir aux enfants et ne pas leur dire la nature sera cloisonnée et vous serez à l'extérieur de ce monde. Parce que comme il disait Jérémy, ben, c'est un monde qui est à côté de nous. Le grand tétra, par exemple, il vit très près de nous. Hein. Souvent, dans les stations de ski, vous passez dans une piste noire et sûrement à 200 mètres, il y a un site d'hivernage. Hein. Voilà. Et donc l'affût, c'est, la question c'était de comment on a tourné ça. En fait, le premier principe, c'est de ne pas déranger. Et pour ne pas déranger, il faut connaître l'espèce. En fait, la connaissance, ça permet de respecter l'animal, la bête qu'on veut voir. C'est une base en fait. Alors il faut lire beaucoup, mais ce jeune Uko en fait, il va pas lire dans le film. Il va faire son périple à l'ancienne.
Comme vous observez.
C'est ça, comme un Pyrénéen. Mmh. Et il va adopter une attitude de rapport au vivant qui va lui permettre justement de vivre des moments extraordinaires. On a par exemple une scène d'observation de Uko adolescent devant un gypaète barbu justement qui casse les os au pied d'une falaise. Savoir que le gypaète, quand il trouve une carcasse, il est obligé de casser l'os en le lançant d'une certaine hauteur pour en tirer la moelle. Voilà, il va apprendre tout ça. Donc il y a des espèces, vous êtes obligé de passer par un affût. Le grand tétra, il est impensable déjà de pas connaître le secteur, mais aussi de pas connaître l'oiseau pour l'approcher, parce que c'est des espèces très très sensibles déjà au bruit de l'homme. Un homme qui cadence son pas dans une forêt a une cadence assez particulière, et ça les animaux sauvages le connaissent. Si vous fracturez votre cadence, l'animal aura une distance de fuite beaucoup plus courte et sera plus tranquille. Donc il y a toute une approche, toute une méthodologie qui va comprendre en fait ce petit Uko à travers sa quête.
Ah, justement, oui, Jérémy.
Non, je voulais juste compléter les techniques de tournage. Patrice l'a très bien expliqué, mais il y a aussi à savoir que chaque espèce a aussi des moments dans l'année qui sont plus ou moins opportuns, des moments qui sont absolument proscrits. Patrice l'a dit, mais c'est bien de le répéter. Voilà, nous, le non-dérangement des espèces, c'est peut-être la valeur fondamentale qu'on essaye de transmettre aussi. Ça passe par les connaissances, il l'a dit. Ce qui fait que, par exemple, on s'est totalement interdit les drones. On en voit de plus en plus dans les films documentaires animaliers. Pour nous, ça n'avait aucun sens de faire ça. En fait, on perd tout l'essence du message du film.
Ça dérange, donc, parce qu'on voit du bruit.
Ça dérange complètement. Patrice en parlera sûrement mieux que moi, mais les drones, c'est catastrophique. Pour tous les oiseaux, tous les rapaces, c'est vraiment
même
une catastrophe.
Animaux,
ah oui, alors les animaux en général. Mais voilà, donc déjà il y a ça, et il y a aussi les conditions de montagne. Du coup, il faut penser que dans les tournages, on a tout le matériel dans le dos. Donc c'est des sacs entre 20, alors moi je suis plus petit gabarit, donc moi j'ai 20 kilos, mais les autres ils en ont plutôt 30. C'est des milliers de mètres de dénivelé, c'est beaucoup de tournages qui... entre guillemets, ne donne rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les images animalières, mais ça fait partie de l'aventure, parce que on dépend, et surtout Patrice qui a fait les images, mais on dépend de la météo, de l'animalier, donc voilà, c'est des conditions très particulières où on n'est pas du tout en studio, où on dit, on met le clap de début et ça tourne, quoi.
Qu'avez-vous appris au cours de ce tournage sur le grand tétra et sur son environnement que vous ne sachiez pas auparavant ?
Alors, ça fait longtemps que j'apprends, en fait. C'est pour ça que j'ai mis un temps de réponse. Et j'apprends depuis l'âge de 10-12 ans. Voilà. Et c'est un animal, moi, qui m'a fasciné depuis cet âge-là.
Pourquoi ?
La réponse peut être courte et très très longue.
Allez-y.
Fasciné, pourquoi ? Parce que, vous savez, le grand tétra, c'est un héritage du monde ancien, un peu. Il y a 10 000 ans, au retrait des glaciers... l'humanité n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui. Hein. On n'était pas encore un peuple de chasseurs-cueilleurs. Et au retrait des glaciers, les Pyrénées ont eu un héritage des espèces assez particulières, des espèces qui vivaient auparavant sur tout le sud-ouest, même jusqu'en plaine. Le grand tétra était présent dans les parties de Piémont à cette époque-là. Et quand les glaciers se sont retirés, le seul endroit où le grand tétra a trouvé refuge, c'est les Pyrénées et les sommets les plus hauts, les lisières de forêt. Et il a un espace de vie aujourd'hui qui est très restreint. Mmh. On peut l'estimer entre 1300, 1400 mètres et 1800 mètres d'altitude. Cette distance-là de son espace de vie, c'est à peu près ça, sur toute la face nord des Pyrénées. Et donc cet héritage, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire parce que ça m'a toujours fait penser à un oiseau qui est toujours dans la survie. C'est le cas, vous allez me dire, de beaucoup d'espèces, mais notamment du grand tétra, parce que son milieu normalement originel, c'est les milieux froids. La Scandinavie, la Sibérie, où les populations de la sous-espèce majeure sont bien plus importantes. Et donc il est auprès de nous. Parfois, au cours de notre histoire, on a détourné le regard de cet oiseau et de ces espèces-là. On appelle ces espèces, il faut savoir, c'est des espèces parapluies. C'est des espèces, en fait, quand elles sont présentes sur un territoire, vous avez un diamant entre les doigts. Quand vous perdez un grand tétra, vous perdez plus qu'un grand tétra. Vous perdez tout un cortège d'espèces qui sont inféodées à ces milieux. Et moi, ça me rend triste. Voilà. Et la fascination... que Hugo, dans le film, va avoir. Il ne le sait pas encore, hein, mais je pense que c'est un peu ça.
Le changement climatique a une importance sur sa présence dans les Pyrénées ?
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui.
Si vous me parliez de grand froid, justement.
Ouais. En fait, vous savez, c'est évident que le climat change, bien entendu. Dire l'inverse, ce serait dogmatique, ou je ne sais quel terme on peut employer. Moi, ce qui m'effraie, c'est plutôt la perte de biodiversité, la perte du vivant. Évidemment que le changement climatique est présent. Évidemment qu'on ne peut pas le nier. Évidemment qu'il y a des conséquences. Mais ce qui est effrayant, les scientifiques, beaucoup de scientifiques sont en accord avec ça, c'est la perte de la diversité du vivant. Vous savez, autour de nous, je vais parler d'espèces que tout le monde connaît, par exemple les passereaux. Les passereaux, qu'ils soient citadins ou campagnards, qu'on en a le Comminges et dans tout le bocage pyrénéen, c'est eux qui souffrent les premiers on en voit de moins en moins. Et ça, c'est inquiétant. Pourquoi ? Parce que ce sont des oiseaux proies et puis ça a un impact sur toutes les autres espèces. Le début de la question, c'était quoi ?
C'était le changement climatique.
Alors pour le grand tétra,
impacte-t-il justement sa présence ? Vous parliez de grand froid.
Alors pour le grand tétra, ce qui impacte aujourd'hui, c'est qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un taux de parasites qui est plus important qu'auparavant. Si vous voulez, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, le taux de parasites sur les grands tétras n'était pas celui qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut arriver qu'on trouve sur un grand tétra plusieurs tiques, plusieurs parasites qu'on ne trouvait pas avant. Ça, c'est un signe. C'est un des premiers signes qu'on commence à voir. Alors, dire que c'est les changements climatiques, moi, je suis pas scientifique, moi, je suis passionné. Voilà. Je porte un regard qui est le mien. Et donc je ne vais pas m'aventurer, je vous fais la restitution de dernières études uniquement. Mais il paraît évident que si les températures remontent aux valeurs qu'on connaît aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il y ait un impact très très fort.
Quelle est cette durée de vie au grand tétra ?
C'est à peu près 12-15 ans. J'ai hésité parce qu'on a des grands tétras qui ont été jusqu'à 17 ans, mais c'est des grands tétras qui étaient en captivité. Donc une douzaine d'années, il mise sa survie sur la durée de vie des adultes, en fait, le grand tétra. Si un grand tétra jeune arrive au bout d'un an, il a pas mal de chances de survivre et d'arriver à l'âge adulte. À savoir que dans une nichée, pour vous faire un petit résumé là, rapide sur sa biologie, une poule à moyenne, une femelle dans les Pyrénées va pondre 3 œufs. Si 3 petits arrivent, il y en a 66% qui vont mourir le premier hiver. Ils sont très fragiles, donc 2 petits sur 3 vont mourir. Mais le troisième, s'il arrive à passer un an, il a de fortes chances d'arriver à l'âge adulte.
Le tournage de ce film, dont je rappelle le nom, Le cœur de la montagne, vous a demandé combien de temps en préparation, en tournage et en montage ?
Alors c'est très dur, je pense, de faire un vrai timing, parce que comme Patrice il l'a dit, lui c'est presque des dizaines d'années. Il y a des images en tout cas qui datent de on va dire, c'est à peu près ça ?
Oui.
À peu près dizaines d'années, de toutes ces sorties, etc. Après, à partir du moment où on a commencé à écrire les scénarios, donc ça c'était le moment où on s'est rencontrés, donc c'était il y a 2 ans. Donc à partir de là, il y a beaucoup de scènes scénaristiques, on va dire, qui ont été tournées. Et en parallèle, on commence les montages. Donc. Le temps exact, c'est très dur à calculer, mais voilà, c'est énormément de travail. Faire un film, c'est pas que faire des images. Il y a tout ce qui se passe autour. Il y a de l'écriture, il y a des voix off, il y a un scénario, il y a monter des équipes, il y a donc effectivement monter, il y a l'étalonnage. Donc tout ça, on le fait à deux. Il y a avoir des partenaires, faire des contacts à la radio, faire diffuser l'information. Donc voilà, ça, on le fait à deux. Et ensuite, il y a tout ce qui est la post-production qu'on a commencé à entamer, mais qu'on va finaliser là dans les prochains mois, où là, on a des équipes de professionnels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une campagne de financement, puisque nous, on le fait avec le cœur et avec le bénévolat pour le moment. Mais les professionnels qu'on a autour de nous sont professionnels, donc il faut les payer, c'est normal, et c'est pour ça qu'on lance cette campagne.
Voilà, justement, ça tombe bien, si vous me tendez la perche, si je me permets, vous avez lancé un financement participatif qui est disponible depuis le 10 avril dernier. Comment peut-on y participer ?
Alors en fait, c'est très simple, c'est une plateforme de financement participatif qui est très connue, qui s'appelle Ulule. Donc le site, c'est www.ulule.com/lecoeurdelamontagne, tout attaché. Et donc le principe, pour s'il y a des gens qui ne connaissent pas, donc c'est pas tout à fait des dons, il y a des contreparties. Donc suivant, donc vous avez une page avec toutes les explications du projet, il y a le teaser vidéo d'ailleurs qui est disponible. Donc c'est pas encore la bande-annonce, mais on y est proche. Et donc, suivant le montant que vous souhaitez donner, vous avez des contreparties. Donc, ça va de l'affiche du film jusqu'à la sortie en nature avec Patrice pour aller essayer d'observer et comprendre un peu le monde sauvage. Donc voilà, je redonne le site, c'est www.ulule.com/lecoeurdelamontagne. Et dans tous les cas, si vous tapez Le Cœur de la Montagne film, normalement sur les moteurs de recherche, vous tombez vite sur nous.
Et y a-t-il une limite pour participer à cette campagne de financement ?
En termes de temps ?
Oui.
Alors en termes d'argent, il n'y a pas de limite, mais non, je rigole. Et en termes de temps, c'est jusqu'au 20 mai. Donc 20 mai, grand maximum, sachant que voilà, nous, c'est le principe du tout ou rien. Donc soit on arrive à atteindre notre objectif et donc le film voit le jour, soit on n'y arrive pas et malheureusement nos super images resteront pour nous, mais ça sera pas le cas, donc on va arriver, on compte sur nos Pyrénéennes et Pyrénéens pour rejoindre l'aventure avec nous.
Ouais. Ah, nous enregistrons cette émission aujourd'hui lundi 20 avril, hein, je précise. Vous en êtes à combien actuellement au moment où nous enregistrons l'interview?
Là, on est à autour de 35%, donc c'est un très bon début.
Il reste un mois pile, jour aujourd'hui où nous enregistrons.
Voilà, il reste un mois pile, donc on est à 35%. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que, et merci de nous donner la possibilité de parler du film, pour que voilà, les Pyrénéennes, Pyrénéens, et en tout cas en l'occurrence les auditeurs, auditrices de Radio Présence, puissent rejoindre l'aventure, parce que du coup je fais le lien avec la question d'avant, hein, par rapport à cette équipe de pros, où là on a la chance d'avoir vraiment une équipe exceptionnelle, et je pèse même pas mes mots, puisque notamment on a Marc Namblard, qui est pas connu du grand public, mais en fait c'est un audio-naturaliste, donc son métier est de capter les sons animaliers et les ambiances naturelles, donc c'est vraiment son métier, et lui il a réalisé l'ambiance sonore du Chant des Forêts, notamment, qui est sorti récemment, qui a fait un tabac partout, il avait fait la Panthère des Neiges à l'époque, donc monsieur Marc Namblard a un César depuis quelques mois. Donc voilà, nous à deux, on lance ce projet, on a un césarisé dans l'équipe, donc vous imaginez bien que l'honneur est immense pour nous qu'il accepte de travailler avec nous. Mais voilà, ces gens-là, il faut bien les rémunérer pour leur travail exceptionnel. Et voilà, il faut aussi noter que l'audio dans un film animalier, c'est on va dire 30% du film. Une superbe image sans le son immersif, ça vaut pas grand-chose. Donc là, voilà, on sait qu'on aura, une ambiance sonore ultra pro. On aura aussi un studio à Toulouse pour enregistrer les voix off. On a un musicien pro qui est du Comminges aussi, qui nous fait une composition de la bande originale sur mesure. On a une graphiste pro. Donc voilà, c'est pour ces gens-là que la cagnotte est lancée, quoi.
Et puis vous en parlez à l'instant, le film a pu se faire grâce à plusieurs partenaires.
Hein. Ouais, tout à fait. On a pas mal de partenaires, donc qui... Alors, on a un seul partenaire financier qui est la Comcom de chez nous, là, de Cagir Garonne-Sala. Voilà, tout à fait. Et tous les autres partenaires, c'est sur le relais d'information. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on lance encore une fois la cagnotte, parce qu'on n'a pas forcément de soutien. Donc c'était un choix d'être indépendant et autoproduit. Ça nous donne une liberté artistique complète, et ça, c'était obligatoire pour nous. Et donc, on a les trois parcs naturels des Pyrénées. Donc ça, c'est super. C'est une vraie légitimité pour nous aussi. Donc, on a nos amis catalans. On a le parc naturel ariégeois. Et chez nous, le parc Barousse-Comminges.
Oui.
C'est ça, Barousse-Comminges-Pyrénées.
Pyrénées-Comminges-Barousse-Pyrénées.
Voilà, il n'y a pas l'ordre, mais il y a les bons mots, je crois. On est ça. Et on leur passe bien le bonjour et le remerciement pour leur soutien. On a aussi une très grosse association militante, le FNE, France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, qui milite au quotidien pour la protection des espèces. Et eux nous envoient un grand soutien aussi. Donc c'est vrai que ça nous donne une grande légitimité dans notre travail. On a aussi Natura 2000 de la zone de Marignac qui nous aide, et un petit lieu aussi Aéter Cagir qui est dans le Comminges, là, Rieux Cazé, qui nous a soutenus depuis le début. On a fait des tournages, on a fait des conférences, donc voilà, ça fait 7 partenaires si je dis pas de bêtises.
Et puis le 25 septembre prochain, le film sera projeté en avant-première lors du festival pyrénéen de l'image nature de Cotteret dans les Hautes-Pyrénées. Avez-vous une idée à ce jour où nous pourrons voir ce film dans les prochains mois? Est-ce que vous avez commencé à y travailler, ou est-ce que pour l'instant vous vous contentez de faire vos efforts sur le financement?
Ouais, étape par étape. Hein. Du coup, là, on finit les tournages parce que le tournage...
Vous avez mis l'eau à la bouche aux auditrices, auditeurs.
Oui, mais vous imaginez que nous, depuis le temps qu'on travaille dessus, on
dans tous les bons cinémas.
Ouais, déjà, ça sera dans tous les bons cinémas. Ça, on fera le maximum, en tout cas. Non, mais voilà, l'animalier aussi est très spécifique. Donc, on a encore des petites finalisations de tournage à faire qu'on est en train de faire actuellement. Le montage, tout ça, la campagne qui va, comme je dis, dépendre de l'avenir du film ou pas. Et puis, donc voilà, l'idée c'est, confirmé, l'avant-première se fera au Festival de Cotteret le 25 septembre, c'est la soirée d'inauguration du festival. Donc ça c'est super. Après l'idée c'est on a candidaté à pas mal de festivals en France pour l'automne, et donc de faire une sortie en salle de cinéma à partir de l'hiver 2026-2027, donc on l'espère dans tous nos cinémas pyrénéens à minima, Puis après, je pense que nos amis alpins, je pense que ça pourrait les intéresser.
Même dans
les grandes villes. Et dans les grandes villes, parce que voilà, le but, c'est de sensibiliser le public à tous ces trésors qu'on a dans les Pyrénées. Donc,
et faire connaître les Pyrénées.
Exactement, et plus large sera la diffusion, plus heureux on sera.
Redonnez-nous l'adresse où l'on peut participer à ce financement participatif.
Ouais, c'est www.ulule.com/lecoeurdelamontagne, tout attaché, www.ulule.com/lecoeurdelamontagne.
Et ne tardez pas, c'est jusqu'au 20 mai. Jérémy Caz et Patrice Abeille, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes les réalisateurs du Cœur de la Montagne, un film que vous pourrez voir au cours de l'hiver 2026-2027. Merci, à bientôt.
Merci à tous, à bientôt.